Chapitre 9. Le samedi matin, Agatha commença à s'inquiéter de ce qu'elle porterait l'après-midi même, mais elle en arriva vite à la conclusion que la manière dont elle était habillée ne ferait pas grande différence. Ce qui importait, c'était sa silhouette. Elle passa une heure devant le miroir en pied de sa chambre, nue, à se pencher, s'étirer et se tordre, inspectant scrupuleusement son corps à la recherche de la moindre imperfection. Elle en trouva plein, mais finit par les accepter. Nul n'est parfait après tout, n'est-ce pas? Elle fureta dans le tiroir où elle rangeait ses maillots de bain, mit la main sur son bikini préféré et l'essaya. Il lui allait toujours à merveille. Si elle avait de l'allure avec un si petit bout de tissu, ce serait également le cas sans. « En fait, se dit-elle, tu seras encore mieux. Sans bikini, pas de bourrelet qui dépasse. Oui, tu seras au moins aussi jolie que la plupart des membres du club. C'est ton jour, ma grande. Tu te mets à nu en public et tu seras magnifique. » La sonnette retentit. Elle consulta le réveil sur la table de chevet. Trop tôt pour que ce soit Jasper. Elle traversa la chambre en direction de la fenêtre, se plaça de côté contre le mur et jeta un coup d'œil derrière le rideau. La Range Rover de Charles était garée dehors. Que diable faisait-il ici? Elle enfila la robe d'été qu'elle avait l'intention de porter plus tard et descendit rapidement les escaliers. « Bonjour, Aggy !» lança-t-il d'un ton enjoué. « Je passais dans le coin et je me suis dit que j'allais prendre des nouvelles de l'affaire Antonio. » Agatha croisa les bras et le regarda, la tête légèrement inclinée. On ne passait pas par Carsley. Soit on décidait de s'y rendre, soit on s'était perdu. « Tu ferais mieux d'entrer, » dit-elle. « Allons dans le jardin. » Ils discutèrent, tandis qu'Agatha préparait le café, puis prirent place à une petite table au soleil sur la pelouse.
« C'est agréable !» s'extasia Charles tout en avalant une gorgée.
« Comme au bon vieux temps !»
« C'est gentil d'être passé me voir, Charles, mais ce n'est plus comme au bon vieux temps. »«
Tu as raison. À l'époque, je n'avais pas besoin de sonner à la porte. J'avais mon propre jeu de clés. Tout cela me manque. On s'amusait tellement ensemble. J'aimais bien ces moments-là. »«
Avant, j'aimais bien les cigarettes aussi, » répondit Agatha, « mais je me suis débarrassée de cette mauvaise habitude. »«
Es-tu en train de dire que je n'étais rien qu'une mauvaise habitude ?»
En tout cas, tu avais de mauvaises habitudes. Cela ne fait aucun doute. Courir les femmes, par exemple.
J'ai beaucoup de regrets dans ma vie. Mais notre relation n'en fait pas partie, tu sais. Je serai toujours là pour toi. Si tu as besoin d'aide dans cette histoire de meurtre, par exemple. Ou si tu as juste besoin de moi.
Merci, Charles, sourit-elle. On ne peut pas revenir en arrière, mais c'est bon de savoir que je peux compter sur toi. Comment vont les affaires à Barfield?
Eh bien... « La création du vignoble avance. Quelques investisseurs sont intéressés. Je pourrais sans doute le financer sur mes propres deniers, mais la participation d'autres personnes me permet de partager les risques. À part ça, je continue à chercher des projets dans lesquels investir, mais l'entretien du domaine occupe le plus clair de mon temps. »
Charles demanda des nouvelles de l'enquête et Agatha lui exposa sa théorie du cadavre congelé. « On m'a fait visiter les locaux chez Antonio, » raconta-t-elle. Ils disposent de deux chambres froides. C'est là qu'elles ont dû congeler le corps.
C'est effroyable! Sois prudente, surtout!
Je le suis. Bon, il vaudrait mieux que tu files. Jasper ne va pas tarder. Nous passons l'après-midi à la piscine du club naturiste.
Tu ne vas quand même pas?
Si, si! Dit-elle tout sourire, en se délectant de la lueur de jalousie qu'elle lisait dans ses yeux. Ça fait partie de l'enquête. C'est dans le strict cadre de l'exercice de mes fonctions. « Je serai à couvert. »«
Mais c'est tout le contraire !»
s'esclaffa Charles.
« Tu seras entièrement à découvert !»«
C'est une nouvelle expérience !» répondit-elle. Et elle le raccompagna jusqu'à la porte d'entrée. Quand Jasper arriva, Agatha était fin prête. Elle avait glissé un drap de bain, de la crème solaire, du shampoing et d'autres essentiels dans un cabas, ainsi qu'une paire de claquettes, sans doute utiles aux abords de la piscine, même si c'était le genre de chaussures qu'Agatha ne supportait pas d'ordinaire. Pour elle, porter des talons était aussi vital que choisir la bonne teinte de rouge à lèvres. «
Le club est très animé aujourd'hui », la prévint Jasper, tandis qu'ils montaient tous deux en voiture. « Mais c'est toujours comme ça le week-end.
Certains membres décorent le bar pour la fête d'anniversaire de ce soir.
Et nous avons une équipe dédiée qui prépare le terrain aux alentours du guerrier solitaire en vue de notre grande finale de mercredi.
C'est étrange d'avoir choisi un mercredi soir pour une fête aussi importante, fit remarquer Agatha.
Nos soirées thématiques dédiées aux jeux de rôle ont toujours eu lieu le mercredi, expliqua-t-il. Et comme tous les membres n'y participent pas, ça ne serait pas juste d'accaparer le club le week-end.
Je comprends, dit Agatha en tripotant les clés qu'elle essayait de ranger dans son sac. Elle sentait son estomac se nouer et sa respiration devenait saccadée. Elle était nerveuse, sans pouvoir se l'expliquer. La veille, sur scène, face à un public d'adolescentes, elle s'était sentie parfaitement à l'aise. Alors pourquoi maintenant?
Sans doute, songea-t-elle dans un soupir, parce que tu n'étais pas nue devant ces jeunes filles.
J'imagine que vous devez appréhender un peu, devina Jasper en sortant de l'Isle Glen pour emprunter la Grand Rue.
C'est tout à fait normal. Une fois que nous serons arrivés, vos craintes se dissiperont en un rien de temps. Il faudra que je m'absente un moment avec Edward pour m'assurer que tout est en ordre du côté du guerrier solitaire. Mais tout le monde vous accueillera à bras ouverts. Et puis, vous pourrez toujours bavarder avec Tony. Ne vous inquiétez pas.
Agatha grimaça et détourna la tête, regardant par la fenêtre pour que Jasper ne puisse pas voir l'effroi se peindre sur son visage. Elle avait complètement oublié la présence de Tony. Se mettre à poil devant des inconnus, c'était une chose. Mais devant son assistante, c'était tout à fait différent. Elle la reverrait au bureau dès le lundi matin, lorsqu'elles seraient toutes deux revenues dans le monde réel, celui où les gens portent des vêtements.
« Je ne suis pas inquiète, » mentit Agatha. « Et puis, cela me fait plaisir de voir Tony. Si elle peut le faire, alors moi aussi. »
Jasper la regarda en coin, un peu surpris par le ton tranchant qu'elle venait d'employer, puis sourit en voyant la détermination illuminer ses traits.
« Voilà, c'est exactement ça, » dit-il. « Mais je vous promets que vous vous sentirez parfaitement à l'aise là-bas et que nous passerons un très bel après-midi. »
Une fois arrivé au club, Jasper conduisit Agatha vers le vestiaire des sorcières avant de disparaître à son tour dans celui des sorciers. Agatha se dévêtit, enfila ses claquettes et noua son drap de bain autour d'elle. Quand elle reparut dans le vestibule, Jasper l'attendait. Il était entièrement nu et portait une serviette sur son bras.
« Vous pouvez garder votre serviette si vous le souhaitez, » suggéra-t-il. « C'est votre première fois, personne ne vous en voudra. »
« Eh bien, » dit-elle en prenant une grande inspiration, « quitte à faire ça, autant le faire jusqu'au bout. »
Elle tira sur le bord de son drap de bain et s'en libéra. Elle aperçut alors son reflet dans le grand miroir. Elle leva le menton et rejeta ses épaules en arrière, exactement comme lorsque Bert Simpson l'avait aperçu dans son jardin.
« Agatha, vous n'avez rien à craindre, » la rassura Jasper. « Vous êtes magnifique !»
Ils déambulèrent au soleil près de la piscine. Plusieurs membres se prélassaient sur des chaises longues, tandis que d'autres discutaient. Jasper connaissait tout le monde, et il présenta Agatha de façon si naturelle que cela la fit sourire et la rendit aussi bavarde que si elle se trouvait à une garden party avec de vieux amis.
« Sauf que je ne les connais pas, et qu'ils sont tous à poil !» se dit-elle.
Au bout de quelques minutes, cependant, cela n'avait plus grande importance. Elle troqua son masque professionnel pour un sourire franc. Ce qu'il se passait était tout à fait inattendu. Elle s'amusait. Elle repéra Tony qui lisait un magazine sur un transat à l'autre bout de la piscine. Celui juste à côté d'elle était libre. Agatha s'en approcha et y jeta sa serviette.
« Surprise !» lança-t-elle joyeusement.
Tony leva les yeux, remonta ses lunettes de soleil sur son front et l'espace d'un instant se figea, l'air horrifié. Instinctivement, elle tenta de se couvrir avec le magazine.
« Agatha, que faites-vous ici? Vous ne m'aviez pas dit que... »
« Eh bien, Jasper m'a convaincue de tenter l'expérience, » expliqua-t-elle
en prenant place sur la chaise longue avec autant d'élégance que possible.
« Il faut bien essayer quelque chose de nouveau de temps en temps, non ?»«
C'est vraiment bizarre, » admit Tony en secouant la tête et en riant.
Elle posa le magazine et se redressa.
« Je ne suis pas sûre de pouvoir affronter ça sans un verre. Je vais au bar. Que diriez-vous d'un gin tonic ?»«
Parfait !»
dit Agatha en s'allongeant au soleil et en fermant les yeux.
« J'ai bien cru que vous ne me le proposeriez jamais !»
La chaleur de l'après-midi, les légères éclaboussures des baigneurs dans la piscine et le bourdonnement des conversations aidant, Agatha se sentit plus détendue qu'elle ne l'avait été depuis longtemps, comme l'avait promis Jasper.
Se laissant envahir par une douceur soporifique, elle entr'ouvrit les yeux et aperçut Tony qui revenait du bar. Elle se leva.
« J'étais sur le point de m'endormir, » confessa-t-elle. « Ça ne vous dérange pas de rester debout ? Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu vulgaire à boire allongé. »
« Je sais, » dit Tony. « Après, on a des gouttes qui coulent sur le menton. Mais bon, ce n'est pas comme si on risquait de tacher notre chemisier préféré, n'est-ce pas ?»
Elles rirent de bon cœur et trinquèrent.
« Santé, » fit Tony.
« Cul sec, » lança Agatha.
Elles discutaient de la météo, du club et du rôle que l'on avait promis à Tony lors de la grande finale de mercredi, quand Ulrika et Ursula approchèrent. Une fois de plus, Agatha fut frappée par leur ressemblance. Elle se souvint des paroles de Jasper le samedi précédent. « Nous nous regardons tous, nous nous comparons tous, c'est la nature humaine. »
Tony et elle étaient très différentes. Tony était mince, un peu trop de la vie d'Agatha, et plate comme une planche à pain, tandis qu'Agatha avait de jolies courbes, juste là où une femme était censée en avoir. Mais les sœurs étaient toutes deux chétives, avec la même longue chevelure d'un brun grisonnant. Si le visage d'Ursula était un peu plus rond que celui de sa sœur, elles arboraient une expression similaire, inquiétante, et le même regard vert et intense.
« Mrs. Raisin, » dit Ursula, « vous vous êtes décidée à rejoindre le club ?»«
Je n'en suis pas encore sûre, Mrs. Daniels, mais Tony aime passer du temps ici et Jasper m'a convaincue d'essayer. »
« Jasper. » Ulrika hocha la tête et les deux femmes échangèrent un long regard.
« À ce propos, j'ai vu un autre de nos amis communs ce matin, » les informa Agatha. « Sir Charles Fress est passé à la maison pour bavarder un peu. Il m'a demandé des nouvelles de votre réceptionniste, Teresa. »
C'était un mensonge.
« Je crois qu'elle lui a tapé dans l'œil. »
Mais ça, ça ne l'était sans doute pas.
« Sir Charles va être déçu ?»
commença Ursula.
« Je doute qu'il revoie Teresa un jour, » ajouta Ulrika.
« Vraiment, pourquoi ?» demanda Agatha.
« Nous avons reçu un mail de sa part, » expliqua Ursula. « Elle a trouvé un nouvel emploi à Londres. Elle dit qu'elle ne reviendra pas. »«
C'est étrange, » dit Tony. « Elle n'avait pas de préavis ?»«
Elle est en vacances. Elle affirme que cela couvre la période requise, » répondit Ulrika.
« Cela n'aurait rien changé, » poursuivit Ursula.
Nous avons fermé boutique pour le moment, et comme vous l'avez sans doute deviné, Mrs. Raisin, maintenant qu'Antonio n'est plus de ce monde, nous vendons la fabrique. »
Les deux sœurs souhaitèrent un bel après-midi à Agatha et Tony, puis s'éloignèrent ensemble en direction du pavillon.
« Elles mentaient, » jugea Agatha. « Teresa ne leur a pas envoyé de mail. Si elles en ont reçu un, je parie qu'elles l'ont falsifié ou qu'elles s'apprêtent à le faire. » Teresa voulait s'enfuir le plus loin possible. N'importe qui reprenant l'entreprise voudrait être informé sur le personnel qu'il serait susceptible d'embaucher et demanderait qu'une lettre de démission figure au dossier de Teresa, raisonna Tony. C'est peut-être l'objet de ce mail.
Peut-être, réfléchit Agatha.
Avec un peu de chance, Teresa s'est cachée quelque part dans le sud du pays.
Je crois que nous pouvons considérer ça comme une première, annonça Tony.
Quoi donc ? Demanda Agatha.
Eh bien, nous n'avions encore jamais interrogé nos suspects numéro un toutes nues.
Le reste de l'après-midi s'écoula rapidement. Agatha passa un peu de temps à converser avec Jasper, fit la connaissance d'autres membres et finit par se décider à piquer une tête dans la piscine. Seuls quelques nuages épars semblaient atténuer la chaleur du soleil. Elle se glissa gracieusement dans l'eau, émit un léger cri de surprise en sentant le froid sur son ventre et fit quelques longueurs. Agatha était une excellente nageuse et maîtrisait depuis longtemps l'art de nager la brasse tout en gardant la tête hors de l'eau, préservant ainsi son maquillage et évitant tout contact du chlore avec sa chevelure. Quand elle fut sortie, Tony et elle s'accordèrent sur le fait qu'il était bien plus facile de sécher sans maillot de bain, puis elle commanda un taxi pour rentrer. Elle se doucha, s'habilla et elle attendait le taxi devant le pavillon quand Jasper apparut, drapé dans son peignoir noir et or.
« J'espérais que nous pourrions aller quelque part après, » dit-il d'un ton hésitant.
Agatha sourit de la timidité soudaine de cet homme qui avait pourtant l'habitude de se promener nu en public.
« Une autre fois peut-être, » dit-elle.
Et alors que le taxi s'approchait, elle s'avança vers lui pour déposer un baiser amical sur sa joue. La sensation de ses poils frôlant son menton lui rappela aussitôt pourquoi elle détestait autant les barbes.
John passa chercher Agatha peu de temps après et ils firent ensemble les quelques kilomètres qui les séparaient d'Ancombe, l'illustration même du parfait village des Cotswolds. Carsley et Ancombe avaient d'ailleurs beaucoup en commun. Une église d'un côté du village et un pub de l'autre, par exemple. Mais ici, contrairement à Carsley, dont la grand-rue était bordée de maisons et de boutiques, les jolis cottages aux toits de chaume et leurs élégants jardins colorés étaient regroupés autour de la célèbre source d'eau minérale. Si l'on donnait un jour un concours des plus beaux villages, Ancombe l'emporterait loin devant Carsley. Et Agatha songea que c'était une bonne raison pour ne pas y vivre. Ancombe était tout simplement trop jolie. Sa renommée de « joyau caché des Cotswolds » commençait à en faire un piège à touristes, ce qui n'arriverait jamais chez elle. De plus, tandis que le Red Lion servait une nourriture tout au plus comestible, mais sans aucun intérêt, le Feather, le pub d'Ancombe, était connu pour son excellente cuisine. N'ayant presque rien mangé de la journée, Agatha se réjouissait du délicieux dîner qui les attendait. Elle surprit John quand elle commanda une terrine de campagne, suivie d'un jarret d'agneau, sans même avoir besoin de regarder la carte. « De toute évidence, vous avez déjà dîné ici », constata-t-il en souriant. « J'adore cet endroit », répondit-elle l'air ravie. « Je ne voudrais pas vivre à Ancombe, mais j'aime beaucoup venir y manger. Vous n'auriez pas pu mieux choisir. » Ils sirotèrent leur spritz à pérole, tandis que John étudiait le menu et qu'Agatha détaillait la carte des vins. Il lui demanda comment s'était passée sa journée et elle lui parla de son expérience naturiste. « Donc, vous vous êtes mise complètement à poil ?» Un large sourire illumina le visage de John. « J'aurais tellement aimé être là !»« Allons, allons !» le reprit Agatha. Elle lui adressa une affectueuse remontrance, le menaçant du doigt tout sourire. « À vous entendre, on a l'impression que c'est sordide, mais cela n'a rien de sexuel. Il s'agit seulement d'un groupe de personnes qui se détendent et se promènent dans le plus simple appareil. »«
Si vous le dites !» répliquait John.
« Mais l'idée d'avoir manqué cet événement m'anéantit. » Avant que votre imagination s'emballe, sachez que j'étais là-bas en mission afin d'interroger nos principales suspectes. Voici sans doute venu le moment de vous raconter cette fameuse longue histoire. Agatha lui exposa sa théorie du cadavre congelé et lui fit part de son inquiétude croissante quant à la sécurité de Teresa.
« Je peux essayer de regarder si elle s'est présentée à un quelconque commissariat de Londres. » dit John. Mais je ne peux pas faire beaucoup plus sans ouvrir une enquête pour disparition. Et Wilkes ne m'y autorisera pas. Elle a annoncé qu'elle partait pour Londres, et elle n'est plus là.
Mais elle s'est aussi engagée à me contacter une fois en sécurité, fit remarquer Agatha. Et elle ne s'est pas manifestée.
Très bien. Je vais passer quelques coups de fil, céda John. J'ai des collègues à Londres qui pourront commencer à se renseigner.
Et l'autopsie ? Demanda Agatha. A-t-elle relevé de quelconque trace de congélation ?
Aucune, mais il est possible que le légiste soit passé à côté de certains signes. Je crois que lorsqu'un corps a été congelé, il peut mettre plusieurs jours à dégeler complètement. Si l'on accélère le processus, l'extérieur commence à se décomposer, tandis qu'à l'intérieur, les organes restent gelés. Mais bon, le légiste l'aurait forcément remarqué.
Tony pense que c'est la raison pour laquelle le cadavre a été jeté dans le lac, pour accélérer sa décongélation.
C'est possible. Mais je doute fort que Wilkes accepte que le médecin légiste revienne examiner le corps. Pour l'heure, il a en main une autopsie qui corrobore sa théorie du vol. Il ne fera rien qui puisse donner un quelconque crédit à une théorie signée Agatha Raisin.
Nous n'avons peut-être pas encore réuni les preuves nécessaires, mais admettez que le comportement d'Ursula n'est pas celui d'une veuve fraîchement endeuillée, insista Agatha. Les funérailles n'ont pas encore eu lieu, qu'elle se promenait au club naturiste aujourd'hui comme si de rien n'était. Et puis, que dire de son projet de vente de l'entreprise ? Elle ne devrait pas pouvoir faire ça si tôt, n'est-ce pas ?
Si elle possède une partie de l'affaire, elle peut vendre ses parts quand cela lui chante, dit John. En revanche, si Antonio en est l'unique propriétaire, elle ne peut rien vendre tant que sa succession n'est pas réglée, même s'il a laissé un testament en bonne et due forme. Et bien sûr, s'il s'avère qu'elle est la meurtrière, elle ne pourra de toute façon pas hériter de l'entreprise. On ne peut pas assassiner quelqu'un et garder le bénéfice de son héritage.
Comme ils n'ont pas d'enfants, j'imagine que c'est à la famille italienne d'Antonio que ça devrait revenir.
Et cela pourrait prendre des mois, peut-être même des années.
Ah, oh, et puis n'en parlons plus. décida Agatha en secouant la tête comme pour chasser de son esprit toute pensée ayant trait au meurtre. « J'ai envie de profiter de notre dîner. Et nous avons plein d'autres sujets de discussion. Par exemple, vous ne m'avez jamais expliqué comment il se fait qu'un grand gaillard de la police soit un aussi bon danseur. » À la grande surprise d'Agatha, ni la conversation, ni ses propres pensées ne la ramenèrent au meurtre. John était drôle et divertissant, tout en faisant preuve de modestie. Il rechignait à vanter ses propres exploits. Il fallut un peu de temps avant qu'Agatha ne découvre qu'il avait été danseur de salon de compétition dans sa jeunesse. « J'adorais ça », avoua-t-il. « Mais les types avec lesquels je jouais au football ne comprenaient pas. Certains d'entre eux pouvaient même se montrer assez méchants, surtout quand ils voyaient mes partenaires, des filles superbes. « C'est de la jalousie !» trancha Agatha. « Cela pousse parfois les gens à se comporter de manière épouvantable. « J'admets volontiers être jaloux de vos camarades nudistes de cet après-midi, mais je promets de ne jamais devenir épouvantable, » dit-il en riant. La soirée passa bien plus rapidement qu'Agatha ne l'aurait imaginé, et il était presque minuit quand ils revinrent à Lyle Klein. John sortit du taxi pour lui souhaiter bonne nuit. « Nous voilà à nouveau ici, » observa-t-il, « devant chez vous et avec un taxi dont le compteur tourne. » « Alors vous feriez mieux d'y aller, » lui intima Agatha, tout en jetant ses bras à son cou. « J'ai passé une merveilleuse soirée. » Elle l'embrassa et il la serra tout contre lui. « Moi aussi, » confessa-t-il, avant de l'embrasser de rechef. « Mais je ne suis pas prête à aller plus loin pour le moment. C'est compliqué. Vous comprenez, n'est-ce pas ?»«
Je comprends, » sourit-il.
« Mais ne vous attendez pas à ce que je baisse les bras. » Elle le regarda s'éloigner dans le taxi et remonta l'allée qui traversait son jardin. Quand elle atteignit la porte d'entrée, des nuages venant de l'ouest se massaient dans le ciel et quelques gouttes de pluie chaude commencèrent à tomber. Elle se dépêcha de rentrer et fut accueillie, comme toujours, par Boswell et Hodge.
« Qu'est-ce que je raconte, dites ? » demanda-t-elle à ses chats. « Qu'est-ce qui m'a pris ? Comment puis-je prétendre ne pas être prête à aller plus loin alors que j'ai passé la nuit avec Giovanni ?»
Elle s'assit en bas des marches, caressant ses chats qui lui donnaient de petits coups de museau, rivalisant de ronronnement et se disputant son affection. Giovanni n'était-il qu'un feu de paille? Un moment de folie?
Il m'a sans doute déjà oublié.
John ne ferait jamais ça.
Est-ce pour ça que je ne suis pas prête? Aurais-je peur qu'aller plus loin se transforme en vivre une relation sérieuse? Agatha monta péniblement l'escalier et se coucha plus fatiguée que d'habitude. La journée avait été on ne peut plus inhabituelle. Le lendemain matin, au réveil, une pluie continuelle tombait, mais la clarté du ciel trahissait le soleil d'été, tapis derrière les nuages, attendant que le mauvais temps se lève. Agatha sortit du lit assez tard, passa un moment à se pomponner, puis attrapa un parapluie et se rendit au Red Lion, journaux sous le bras, pour son traditionnel déjeuner dominical. Arrivée devant le pub, elle aperçut Bert Simpson au comptoir en compagnie d'un petit groupe d'habitués. Tous accueillirent Agatha avec un large sourire et certains d'entre eux levèrent un sourcil. Ils n'avaient manifestement pas eu grand-chose à se mettre sous la dent cette semaine, en dehors de la petite scène dont le laveur de carreaux avait été témoin. Elle leur rendit leur sourire, s'avança vers eux et posa la main sur l'épaule de Bert. « Messieurs, » annonça-t-elle, sans se départir de sa mine réjouie, « sachez que si Bert, ici présent, vous a raconté qu'il m'avait vu me prélasser nu au soleil dans mon jardin, il a dit la vérité. C'est mon jardin et j'y fais bien ce que je veux. » Des éclats de rire retentirent. Puis l'un des habitants s'exclama
« Tant mieux pour vous, Mrs. Raisin !»
avant de lui offrir un gin tonic. Agatha parcourait l'un des suppléments en attendant le roast beef et le Yorkshire pudding qu'elle avait commandé, quand Doris Simpson apparut, prévenant Bert que s'il ne rentrait pas à la maison sur le champ, il aurait des ennuis. Elle finit par accepter un petit verre de vin blanc pour se récompenser d'avoir bravé le mauvais temps. Elle discuta avec le reste du groupe pendant un moment, puis repéra Agatha assise dans un coin de la salle.
« Mrs. Raisin !» la salua-t-elle en allant à sa rencontre. « Je ne vous avais pas vue. Je voulais justement vous dire deux mots.
« Bonjour Doris, de quoi vouliez-vous me parler ?»«
Eh bien voyez-vous, c'est cette histoire de bain de soleil dans votre jardin. Je veux dire, ça ne me regarde pas ce que vous faites chez vous.
Jusqu'ici, je vous rejoins, dit Agatha, qui commençait à se sentir légèrement irritable.
Mais mon Bert m'a talonné toute la semaine pour que je me balade dans le jardin avec lui, et tout nu par-dessus le marché.
Alors je voulais seulement vous dire,
continuez comme ça.
Elle lui adressa un clin d'œil et rejoignit le petit groupe au comptoir. Le temps qu'Agatha retourne à Lilac Lane, l'averse s'était transformée en une bruine persistante, juste assez dense pour empêcher les têtes courbées des roses et des géraniums, ornant les jardins de sécher et de se redresser. De retour chez elle, ses chats, qui la regardaient comme si sortir par un temps pareil était insensé, exigèrent leur repas en miaulant en direction du placard de la cuisine où elles rangeaient leur nourriture. Après s'être acquittée de quelques corvées domestiques, Agatha s'installa dans le salon et se cala au fond de son fauteuil préféré pour finir la lecture des journaux du dimanche. Elle commença un article à propos d'une série de meurtres en Italie, mais au bout de quelques paragraphes, son esprit s'égara et elle songea de nouveau au cas d'Antonio Daniels. Elle était persuadée que les deux sœurs se cachaient derrière tout ça. Elles avaient de sérieux mobiles, du moins Ursula, qu'Antonio avait trompé. Maintenant qu'il était hors jeu, elles étaient en mesure de faire fortune en revendant son affaire. Et pour que cela soit possible, il fallait donner l'impression qu'elles n'avaient aucun lien avec le meurtre. Ce qui n'était pas l'avis de Teresa, mais où était-elle à présent? Pourquoi n'avait-elle pas appelé? Pourrait-elle aussi avoir été victime des deux étranges servantes de Jasper? Agatha songeait au nombre de duos féminins qui avaient surgi au cours des derniers jours. D'abord, les deux femmes de la chorale se disputant le même rôle dans Cavalleria Rusticana, auprès de Giovanni. Puis Lola et Santuzza, dans le livret du dit opéra. Les deux sorcières, dans La légende du guerrier solitaire. Et enfin, Ulrika et Ursula. Que faire pour parvenir à mettre le grappin sur ce tandem-là? La sonnerie du téléphone retentit, et elle tendit la main vers la console pour le prendre. Serait-ce Teresa? Elle se félicita de ne pas immédiatement penser à Giovanni et s'aperçut qu'elle ne lui accordait plus vraiment d'importance. De fait, c'était John. « Je voulais vous redire à quel point j'ai apprécié la soirée d'hier, » dit-il. « Moi aussi, John, c'était délicieux. Je ne voudrais pas que vous me trouviez trop insistant. Je sais que ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous, mais j'aimerais que l'on... continue. » Moi aussi j'aimerais bien. Voyons comment se déroule la semaine côté travail et nous pourrons prévoir un autre dîner. » Ce n'est qu'après avoir raccroché qu'elle réalisa que James serait de retour d'ici là. Qu'allait-elle faire? Ils avaient envisagé de refaire leur vie ensemble, mais vu la façon dont il avait quitté la soirée de mariage de Bill et Alice, il semblait qu'il ne restait plus grand-chose à sauver dans leur couple. Et pourtant, en ce moment même, rien qu'à la pensée de son cottage vide, juste à côté, il lui manquait. Mais ce n'était sans doute pas une base suffisante pour une relation. Les lasagnes surgelées aussi lui manquaient quand le congélateur était vide, mais elle n'avait aucune envie de les épouser. Devait-elle seulement envisager de se marier? Et si oui, avec James ou avec quelqu'un d'autre? Elle passa en revue les hommes qui étaient entrés dans sa vie dernièrement. Se voyait-elle épouser l'un d'entre eux? Jasper? Bien qu'il l'ait fait légèrement frémir lors de leur première rencontre, cela lui paraissait inconcevable, même si le principal intéressé ne s'en doutait pas. « Soyons honnêtes, se dit-elle, c'est la barbe. » Quant à Giovanni, elle le considérait comme mort et enterré. Ce qui n'était pas vraiment le cas de sa relation avec Charles, qu'elle voyait plutôt comme mort-né. Et même si elle avait juré de ne plus le fréquenter, de toute évidence, Agatha lui était chère, et si elle était sincère, elle tenait aussi à lui. James posait problème. Elle l'avait autrefois considéré comme l'amour de sa vie et ils étaient tous deux convaincus d'être faits l'un pour l'autre. Cela pourrait-il marcher un jour? Peut-être que le simple fait de se poser la question constituait une réponse en soi. Et pourtant, s'ils parvenaient à franchir les obstacles dont ils avaient tous deux conscience? Toujours est-il que James posait problème. John était différent. Il lui apportait quelque chose de nouveau. Il était drôle, intéressant et semblait la comprendre. Elle l'appréciait, mais pour l'instant, elle le classait clairement dans la catégorie « en attente ». Elle chassa tous ses hommes de ses pensées, décida de se coucher tôt, ferma son cottage à clé et se mit au lit.
Les images des deux sœurs, des sorcières et d'une soprano éplorée, tournoyèrent dans sa tête jusqu'à ce que le sommeil la gagne. Elle se réveilla en sursaut. Elle venait d'entendre un bruit. Une vieille maison comme la sienne résonnait toujours de divers craquements, lorsque les poutres et les parquets refroidissaient et se rétractaient après une chaude journée. Mais elle y était si habituée que son cerveau endormi en faisait systématiquement abstraction. Un bruit qui la tirait de son sommeil était forcément étranger. Elle entendit soudain feuler et miauler. Ces chats seraient-ils en train de se pourchasser? Non. Le grondement d'une voix d'homme lui parvint, suivi d'un coup et d'une série de palourdes. Nom d'un salopard à sonnette, un intrus dans la maison. Sur la pointe des pieds, elle se dirigea vers la porte de sa chambre, enfila la robe de chambre qui y était suspendue, puis jeta un coup d'œil par l'entrebâillement. Rien. Elle s'aventura sur le palier et, cachée à l'angle du couloir, guetta le hall d'entrée où elle perçut les rayons d'une torche balayant l'obscurité ainsi que deux voix d'hommes. D'un pas leste, elle retourna dans sa chambre en prenant bien soin d'enjamber la latte de parquet susceptible de craquer. Les pas se rapprochaient, provenant désormais de l'escalier. Elle n'avait pas le choix. Il y avait au moins deux hommes, impossible de les affronter. Il fallait qu'elle se cache. Saisissant son téléphone au passage, elle se dirigea vers le placard près de la fenêtre, l'ouvrit et fit rapidement glisser les robes longues et les manteaux d'un côté de la penderie. Près du sol, une étroite porte triangulaire suivait la ligne du toit, tout comme le placard, et donnait accès au comble où se trouvait un petit vide sanitaire. Elle pénétra dans la penderie, se faufila à reculons et tendit le bras pour rabattre les portes sur elle. Plongée dans le noir, elle fit de son mieux pour remettre ses vêtements en place avant de refermer la porte triangulaire au moment même où elle entendit des pas dans la chambre. Le plancher gémissait sous le poids de l'un des deux hommes.
« Elle n'est pas là !»
La voix était aussi lourde que les pas de son propriétaire et chargée de colère.
« Ils sont passés où, ces foutus chats ? J'y en a un qui m'a quasiment arraché l'œil !»«
Ils se sont tirés par la porte de derrière !» fit la seconde voix.
« T'as vérifié le placard ?»
Agatha entendit les battants s'ouvrir d'un coup sec et la lumière de la torche filtra à travers la fente au bas de la petite porte triangulaire. Elle retint son souffle.
« Rien de ce côté-là !»
La lumière s'évanouit.
« Le lit est encore chaud !» dit le second homme.
Et Agatha frémit à l'idée qu'il touche le drap sur lequel elle s'était allongée.
« La fenêtre est ouverte. Tu crois qu'elle a pu sortir par là ? Elle a dû t'entendre te prendre les pieds dans ses chats. Elle s'est tirée, c'est sûr.
Ok, alors on finit le sale boulot et on se casse. » S'ensuivirent des bruits de meubles renversés, de literies tailladées et de verre brisé. Les deux hommes se dirigèrent alors vers la salle de bain puis la chambre d'amis, poursuivant leur orgie destructrice. La peur d'Agatha s'était transformée en colère et elle restait cachée dans le noir, raide de fureur. En redescendant, les hommes se firent encore plus bruyants et Agatha risqua un geste pour approcher son téléphone de son visage afin d'en distinguer les touches. Elle composa un numéro abrégé.
« John, c'est moi !»
chuchota-t-elle, la voix tremblant plus de rage et d'impuissance que de crainte d'être découverte.
« Deux hommes se sont introduits chez moi. Ils mettent tout à sac !»«
Où êtes-vous » demanda John.
« Caché dans les combles !»«
Restez où vous êtes. J'arrive tout de suite. » Je fais le signalement au poste. Ne bougez pas, d'accord? Restez cachés.
Oui, dépêchez-vous.
Il faut qu'on se tire,
grogna l'un des hommes, sa voix passant au-dessus de leur bruit de démolition.
On devrait tout cramer.
Ouais, t'as raison. Ce joli toit de chaume devrait brûler bien comme il faut.
Non!
S'écria Agatha, haletante, les larmes ruisselant sur ses joues.
Je ne les laisserai pas incendier ma maison.
Elle poussa la porte triangulaire, mais celle-ci ne bougea pas. Elle fit une nouvelle tentative, se débattant dans l'espace exigu et pesant de tout son poids sur le battant. Celui-ci était bloqué et ne cédait pas. Elle était piégée dans une maison sur le point d'être réduite en cendres.